Pendant ces 2 semaines, je vous invite à revivre la série que j'ai consacrée à toute l'aventure du légendaire festival de Woodstock en 1969.
Dans l'épisode précédent...
Un an après les émeutes de mai 68, les massacres d'étudiants à Mexico, l'invasion sanglante de la Tchécoslovaquie par les chars soviétiques, une certaine jeunesse commençait à se sentir inquiète. Le festival de Woodstock allait représenter un sursaut miraculeux, un moment inespéré de communion, d'utopie, de paix et d'espoir partagé.
Ladies and gentlemen, if you please.
France Inter et la RTBF. Very good trip.
How are you out there? Are you okay?
Woodstock 1969.
We must be in heaven, man.
Mishka Assayas.
Aujourd'hui, on se transporte 50 ans en arrière au cœur d'une incroyable effervescence, celle qui a précédé la naissance d'un rassemblement sans précédent, une communion d'un genre nouveau autour de la musique comme on n'en avait jamais vu et comme on n'en reverrait jamais. Times, Bad Times, une chanson qu'on entend beaucoup aux États-Unis en cette année 1969, le seul 45 tours, enfin single, extrait du premier album de Led Zeppelin, un nouveau groupe anglais né à la fin de l'année précédente et qui, notamment grâce à un jeune chanteur hurleur venu du nord de l'Angleterre, Robert Plant, pousse un cran plus loin le blues psychédélique du trio Cream, l'entraînant vers plus de bruit encore, plus de puissance, vers le hard rock naissant. Alors j'imagine que des connaisseurs ont dû froncer les sourcils, et pour eux, d'ailleurs comme pour les autres, je m'empresse de rappeler que Led Zeppelin, non, ne s'est pas produit au festival de Woodstock, puisque son manager, Peter Grant, avait en effet décliné l'offre des organisateurs, estimant que l'impact de son groupe aurait été noyé dans la masse. D'ailleurs, durant toute cette émission, on ne va écouter que des groupes qui ne se sont pas produits au festival, mais ont contribué à donner une couleur bien particulière à cette année 1969. Oui, il y a un demi-siècle, très exactement, toute une jeunesse aux États-Unis a encore un espoir fou, une croyance utopique en une autre société, ici et maintenant, tournée vers l'harmonie et la paix universelle où prime l'amour et l'innocence. Une autre société guidée non par des valeurs matérielles, mais spirituelles. Et pourtant, il y a de la menace dans l'air, bien plus que de la menace d'ailleurs de la violence, émeute raciale, guerre anticommuniste au Vietnam, les États-Unis, d'ailleurs le reste du monde aussi, sont déchirés. Et la musique qu'on entend en Amérique en cette année 69 traduit ces contradictions. On oscille entre l'espoir et l'angoisse, la joie extatique et l'appréhension d'une menace. Une chanson popularisée l'année précédente cristallise toute cette combinaison instable et inquiétante. Il y a un groupe qui vient de San Diego, hein, c'est l'extrême sud de la Californie, qui s'appelle Iron Butterfly, hein, le papillon de fer, et qui en est l'auteur et l'interprète. In a Garden of Eden, un titre qui transforme presque en onomatopée la formule In a Garden of Eden, hein, dans un jardin d'Éden. Et bien dans cette chanson, l'esprit certes se veut encore psychédélique, mais le feeling déjà est sombre et menaçant. À l'origine, cette chanson occupe toute une face du premier album de ce groupe, donc Iron Butterfly, paru en 68, mais il y a une version abrégée pour la radio qui circule également. Il se trouve que Iron Butterfly aurait dû se produire au festival de Woodstock puisque c'était un des groupes les plus prestigieux du moment. Mais le manager du groupe a posé aux organisateurs des conditions d'une telle exigence que on a finalement envoyé paître Iron Butterfly, qui a raté tout bêtement son rendez-vous avec l'histoire. John Morris, qui fut le régisseur et le coordinateur du festival de Woodstock, a d'ailleurs un souvenir bien précis à ce sujet.
Les musiciens de Iron Butterfly, groupe que je n'aimais pas de toute façon, j'ai pas fait appel à eux, m'ont envoyé un télégramme et il y avait écrit, et là c'est bien avant les téléphones portables, hein, et dans le télégramme il y avait écrit: on va arriver à l'aéroport de New York, vous nous enverrez un hélicoptère, on arrivera directement sur le lieu du concert, on montera sur scène immédiatement et dès qu'on a fini, on repart pour New York.
Okay.
Et moi j'ai dit ouais, c'est ça, ouais. Alors moi j'ai parlé à la petite dame de Western Union et je lui ai dit alors j'appelle, allez vous faire foutre. En anglais, F-U-C-K, plus loin, Y-O-U.
Don't you know that I'm loving you? In a garden of Eden, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and take my hand? Oh, won't you come with me and walk this land? In a garden of Eden, honey, don't you know that I'm loving you? In a garden of Eden, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and take my hand? Oh, won't you come? Please take my hand.
Very Good Trip, Woodstock 1969. Mishka Assayas.
Alors, dans notre émission inaugurale, je vous ai rappelé ce qu'avait été le mouvement psychédélique né sur la côte ouest des États-Unis. Comment il avait essaimé dans le reste du pays, la manière dont ces nouvelles expériences psychiques, sensorielles, spirituelles avaient entraîné des fusions musicales et sonores inédites. Ce qui avait suscité ces grands rassemblements de la jeunesse où la musique était non le prétexte, mais enfin la source d'inspiration, l'accompagnement d'expériences collectives d'un type absolument nouveau. Ces rassemblements avaient eu lieu sur les deux côtes, en Californie d'abord, puis de l'autre côté, à Miami, en Floride, sur la côte Est. Oui, mais alors, pourquoi Woodstock? Pourquoi organiser le plus grand festival de musique jamais imaginé, en pleine cambrousse, au milieu de nulle part, à une heure de voiture de New York, là où il n'y avait strictement rien? À première vue, ça n'avait aucun sens. C'était même carrément du délire. Alors comment cette idée délirante a-t-elle bien pu naître? Eh bien, à l'origine, il y avait un jeune millionnaire new-yorkais, John Roberts, l'héritier d'une fortune faite dans l'industrie du dentifrice. Diplômé de l'université de Pennsylvanie, ancien lieutenant dans l'armée, il gérait un fonds de plusieurs millions de dollars. Il avait vu qu'un seul concert dans sa vie, c'était les Beach Boys. Enfin, ça lui avait sûrement beaucoup plu. Et son copain, Joel Rosenman, lui était légèrement plus branché, c'est pas difficile. Diplômé en droit de l'université de Yale, ce moustachu jouait de la guitare dans un groupe de jazz qui se produisait dans des salons d'hôtel. Et les deux s'étaient rencontrés sur un terrain de golf. Au début, Roberts et Rosenman étaient à mille lieues de vouloir financer un festival de folk et de rock. D'ailleurs, ils connaissaient absolument rien, ni l'un ni l'autre, au rock psychédélique, encore moins à la bohème hippie. En fait, ils avaient eu l'idée de vendre à un producteur de télévision un projet de feuilleton comique mettant en scène les aventures de, je cite, « deux entrepreneurs disposant de plus d'argent que de cervelle, sauvés in extremis des conséquences désastreuses de leur incompétence ». Fin de citation. Et dans cette perspective, Roberts et Rosenman avaient fait passer en mars 1968 une annonce dans le Wall Street Journal et le New York Times dont l'intitulé exact était « Jeunes gens disposant d'un capital illimité recherchent opportunités d'investissement sérieuses et intéressantes et propositions d'entreprise ». Pourquoi ? Ben c'était histoire d'attirer des farfelus en tout genre à même de nourrir leur scénario. Alors on leur a proposé des projets les plus baroques les uns que les autres. Un type voulait qu'on lui finance une fabrique de balles de golf biodégradables. Un autre, c'était des ski-bobs, ça vous dira sans doute rien, c'était une sorte de vélo à ski qui a eu son heure de gloire en Europe à la fin des années 60. Jusqu'à ce que se présentent deux chevelus qui semblaient débarquer d'une autre planète. C'est eux qui ont changé le cours de cette histoire et puis très vite de l'histoire tout court.
song we sing fears we will die. You can make the mountains ring or make the angels cry. Though the bird is on the wing and you may not know why. Come on, people now, smile on your brother, everybody get together. Some may go, he will surely pay his. When the one that left us yet returns for us at last, we are but a moment's sunlight fading in the gray.
Chanson heureuse interprétée par un groupe de Boston qui n'était pas à Woodstock et qui s'appelait les Young Bloods, d'ailleurs injustement ignorée du grand public. Sa chanson Get Together, créée à l'origine en 67, avait été interprétée dès cette année-là par le groupe Jefferson Airplane qui lui était bien à Woodstock. Il se trouve que les Young Bloods l'ont reprise en 69 dans un contexte qui avait changé. Retrouvez-vous, unissez-vous, souriez à votre frère, essayez de vous aimer maintenant. Ben oui, ça faisait du bien d'entendre ça quand le ciel s'assombrissait. Les albums des Young Bloods, la fin des années 60 et début des années 70, comme ceux en solo de leur chanteur à la voix magnifique Jesse Colin Young, entre folk, soul et jazz, valent largement ceux de Crosby, Stills, Nash & Young, et ça vaut franchement plus que le détour, le déplacement, le voyage. Juste avant, c'était la voix de Steve Winwood avec le groupe Traffic, dans un titre à la fois soul, jazzy et psychédélique, Smiling Faces, qu'on entendait pas mal en 69. Alors Traffic, c'est un groupe qui avait été formé par un jeune prodige anglais qui avait même pas 20 ans, Steve Winwood. Oui, prodige, pourquoi? Ben, à 17 ans, il chantait déjà comme Ray Charles. Il avait eu un tube en tant que chanteur du Spencer Davis Group. Puis c'était aussi un remarquable organiste et guitariste. Il avait abandonné cette première formation en pleine gloire pour partir dans une nouvelle aventure, Traffic, un groupe passionnant entre pop psychédélique, soul, folk et jazz, qui semblait alors représenter l'avenir du rock anglais à égalité avec un groupe comme Pink Floyd. Traffic, hélas, s'était séparé en 69, une séparation de courte durée, et Winwood s'était lancé dans une autre aventure avec Eric Clapton et Ginger Baker, c'était le groupe Blind Faith, une aventure qui allait vite tourner court. Alors revenons à John Roberts, le millionnaire en quête d'investissement.
Je viens de ce qu'on peut appeler une famille traditionnelle. Et leur point de vue sur la musique, leur connaissance des courants qui circulaient alors à la fin des années 60, était très limitée. L'idée de plusieurs milliers, de 500 000 personnes qui font des centaines de kilomètres pour venir écouter un concert leur paraissait absurde. Et en fait, c'est absurde. Si on peut aller au concert ici à New York, pourquoi aller à Perpète pour écouter un concert? Mais je pense qu'on a su sentir le vent ici, vers les années 60. On savait qu'on pouvait créer une ambiance, un événement publicitaire. On pouvait réunir un plateau de célébrités qui attirerait les gens. On a senti que la musique était devenue un tel aimant pour les gens qu'ils seraient venus de toute façon.
Mais alors, pour comprendre comment tout ça s'est mis en place, il faut faire un petit retour en arrière. Un jour, deux garçons issus du monde de la musique populaire se présentent à John Roberts et Joel Rosenman. Ils sont pas du tout de leur monde. Le premier, Artie Cornfield, quoique très jeune, il y a alors 25 ans, est alors vice-président des disques Capitol. C'est un compositeur de chansons pop. Il a notamment écrit des tubes pour Jan and Dean, un duo de surfeurs californiens très en vogue au milieu des années 60, lié d'ailleurs aux Beach Boys. Il a la réputation, c'est pas fréquent, de fumer des pétards dans son bureau. Et le second, Michael Lang, encore plus jeune que lui, c'est le seul hippie de l'affaire, enfin du moins en apparence. Il a de grands cheveux longs frisés. Il vit à Miami au sein d'une communauté d'artistes dans le quartier de Coconut Grove. Manager d'un groupe de rock, c'est lui qui a organisé à Miami les deux grands festivals de 1968. Il se trouve que Cornfield et Lang cherchent un financement pour monter précisément à Woodstock un studio d'enregistrement pourvu d'équipements dernier cri. Alors le projet est évidemment loin d'emballer les deux investisseurs. Pour autant, les deux hommes ne désarment pas et changent leur fusil d'épaule. Tout à coup, ils se disent, mais et finalement, si vous gardiez l'idée de Woodstock, mais pour faire autre chose, un vrai festival de rock et de folk le plus grand qui ait jamais existé. Et pourquoi pas en pleine nature? Ça s'est jamais fait et puis ça permettrait d'accueillir la plus grande foule jamais rassemblée. Alors Roberts et Rosenman se disent, ça a l'air complètement dingue cette histoire, mais enfin, ça nous attire. Et c'est comme ça qu'en mars 1969, la décision est prise un peu aveuglément, il faut le dire, d'organiser un festival à la campagne, à une quarantaine de kilomètres au sud du village de Woodstock, dans un parc de la commune de Wallkill. Alors, il faut dire que l'idée de faire de la musique à ciel ouvert, c'est dans l'air du temps. Les musiciens hippies qui vivent dans la région ont pris l'habitude d'organiser ce qu'on appelait des sound-outs, c'est-à-dire des concerts en plein air pour la communauté locale. Enfin, là, ça va être différent parce qu'on attend au maximum 100 000 personnes pour un budget de $500,000.
Thank you. gather around me, cause it's who it may concern. I'm not trying to run your life,
but you're never too old to learn.
Stop worrying about your neighbors and the fancy thing they got, cause if you do, you'll find it soon, you're gonna wind up on the spot. Ow!
Don't let the Jones,
don't let the Jones,
don't let the Jones
get you down.
Trying to keep up too.
Remember that old saying, all that glitters ain't gold. Take heed, don't ignore it until your money tightly hold. Oh, don't let the Jones,
don't let the Jones,
don't let the Joneses
get you down. Keep it up with the Joneses, has only made your life a mess. Bill collectors, tranquilizers, and getting deeper in debt.
You better leave the Joneses alone.
Tell them one more time.
You better leave, oh, leave the Joneses alone.
Joneses got a new car today.
Hear what you should say. Instead you worry till your whole head turns gray.
Worry about the Joneses.
Remember it's their car and they're the ones who had to pay.
So leave both of the Joneses alone.
Listen, your car might be old, but remember it never fails to get you where you wanna go.
Oh, don't let the Joneses,
don't let the Joneses,
don't let the Joneses
get you down.
Now listen, if you see something you want and you know you can't afford it, but the very next thing for you to do is start saving toward it. The Joneses have been a downfall of many persons you see. So people, take my advice and let the Joneses be. Ow!
Don't let the Joneses,
don't let the Joneses,
don't let the Joneses
get you down.
Thank you. Woodstock 1969. Mischka Assayas.
Un autre grand absent de Woodstock, le guitariste anglais Jeff Beck, alors au sommet de sa gloire. Et d'ailleurs, c'est un jeune chanteur encore très peu connu, Rod Stewart, qui faisait partie de son groupe et qui chante ce blues traversé de syncopes et de percussions latines jazzy qui s'intitule Plinth, entre parenthèses, Water Down the Drain. On trouve ce titre dans un album qui a beaucoup marqué l'année 1969, intitulé Beck Ola. Jeff Beck, à cette époque, est d'ailleurs considéré comme un véritable dieu de la guitare, l'égal de Clapton. Il est de fait un des premiers à avoir usé des effets de fuzz, de la saturation, la distorsion. C'était au sein des Yardbirds, où est aussi passé le même Clapton. Ce qui fait d'ailleurs de lui l'un des précurseurs du blues psychédélique, et puis son jeu de guitare au doigt, sans médiator, est d'une rare expressivité. Juste avant, un titre qu'on entend beaucoup à la radio aux États-Unis en 69, Don't Let the Joneses Get You Down, interprété par l'immense groupe vocal noir de Détroit, les Temptations. Une chanson qui aborde de front une souffrance qui parcourt alors la communauté noire, la jalousie sociale. Le voisin plus riche qui en jette, comme on dit, les Jones, on met au pluriel les noms de famille en anglais, donc ça donne les Joneses, sont plus riches que leurs voisins, et le narrateur de la chanson implore ceux-ci de ne pas se laisser abattre par cette inégalité. Un sujet d'actualité, qui n'a rien perdu de sa pertinence. Et la chanson dit, si tu essaies de rattraper les Jones, tu vas te pourrir la vie, tu vas te retrouver avec les huissiers, sous calmant et criblé de dettes, et rappelle-toi bien, tout ce qui brille n'est pas or. En 69, déjà. Alors, c'est vrai, peu de chanteurs et groupes noirs à Woodstock, si l'on excepte Richie Havens, Sly and the Family Stone, un des sommets du festival, et puis, faut pas oublier non plus Santana, qui est un groupe multiracial, et puis évidemment Jimi Hendrix. On y reviendra, bien sûr, mais enfin, faut dire ce qui est, rares sont les musiciens noirs qui transcendent le principe très enraciné aux États-Unis de la ségrégation, une vieille histoire qui reste encore aujourd'hui extrêmement douloureuse. Alors, au printemps 69, John Roberts et ses associés ont trouvé un lieu idéal, Wallkill. Mais hélas, il va y avoir de très sérieux obstacles. I can get the best.
Very Good Trip, Woodstock 1969, sur France Inter et la RTBF.
Et non, c'était pas à Woodstock, mais au Fillmore East de New York, que jouait en 1969 le groupe d'un des maîtres du blues anglais, John Mayall. C'était lui à l'harmonica, il chantait aussi au sein d'une des meilleures formations qu'il ait jamais accompagnée, sans batteur, hein, vous l'avez entendu, il y a juste quelques petites percussions, Room to Move, un titre qu'on entendait pas mal en cette année 69. John Mayall, d'ailleurs, toujours en activité à l'heure où je vous parle, à 85 ans, il a donné, il y a pas si longtemps, un concert à l'Olympia. Alors, revenons à Woodstock, où nos héros organisateurs essuient plus qu'une déconvenue, une vraie catastrophe. Alors que les affiches et les billets sont déjà imprimés, la municipalité de Wallkill pose in extremis son veto. En effet, ce que préparent les organisateurs n'a rien à voir avec le festival de musique classique et de jazz annoncé par eux pour, faut dire, un peu endormir les autorités locales. Toute une bande de traînards hippies a déjà commencé à envahir les lieux et John Roberts éprouve alors une certaine inquiétude.
The major problem in organizing the festival, obviously, was finding a community that would accept us. And we did everything we possibly could to reassure local residents that we were not going to be a threat. We'd be good for business. We'd clean up after.
Le problème majeur qu'on a eu à organiser le festival a été de trouver une localité qui veuille bien nous accepter, et on a fait tout ce qu'on a pu pour assurer les habitants du lieu que l'on n'allait pas être un mauvais coup, qu'on allait être régulier, qu'on nettoyerait quand on aurait terminé. Beaucoup d'entre eux croyaient qu'on allait amener de la drogue, que les hippies allaient violer leurs filles, saccager leurs terres. En fait, ils avaient tort, mais ils voyaient ça de leur point de vue, et ça a créé des problèmes énormes. On a essayé d'établir des contacts. Par exemple, à un moment, on a monté un spectacle pour les habitants intéressés de Wallkill, cette ville qui essayait de nous mettre à la porte, pour leur montrer à quoi ressemblait la culture des jeunes et quel genre de spectacle nous allions organiser. Et nous avons fait appel à une petite troupe, un de ces groupes de théâtre de rue, pour monter un spectacle. Et tout se passait très bien, tous les fermiers étaient là avec leurs femmes, la troupe était en train de jouer une pièce tout à fait innocente et légère. Mais brusquement, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, les comédiens ont décidé que pour rehausser le spectacle, qu'ils se déshabilleraient complètement. Et bien sûr, ça a créé un certain remous dans l'assistance, et on a été mis à la porte.
Et oui, alors pour les organisateurs, un désastre s'annonce. Déjà, ils étaient horrifiés à l'idée que déferle des dizaines de milliers d'individus louches, chevelus et drogués, mais en plus à poil, non, c'est trop. Or, il va se produire un miracle, le premier d'une longue série, jusqu'à d'ailleurs ce miracle final que sera le festival. Le 15 juillet 69, un mois avant le festival, qui est déjà annoncé alors dans toute la presse dite underground comme Rolling Stone ou le Village Voice, enfin la situation se débloque. Michael Lang, dont la désinvolture et l'esprit d'improvisation ont donné pas mal de sueur froide à ses partenaires, est alors mis en contact par un promoteur immobilier avec un éleveur et fermier local, Max Yasger. Celui-ci accepte au dernier moment d'organiser un festival de musique sur ces terres qui sont situées à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Wallkill, près d'un lieu-dit qui s'appelle White Lake. Michael Lang assure à Yasger que, bien sûr, juré et promis, il n'y aura pas plus de quoi 50 000 personnes, vraiment au grand maximum. Alors au début, le fermier accepte de prêter son champ de luzerne de 240 hectares pour une bouchée de pain, mais prenant peu à peu conscience de la portée de l'événement, il fera vite monter les enchères. Alors à ce moment-là, il est déjà clair que le festival de Woodstock va être un événement énorme.
Look over yonder. What do you see? The sun is rising, most definitely. A new day is coming. Ooh-hoo-hoo. People are changing. Ain't it beautiful? Ooh-hoo.
see the light.
Crystal Blue Persuasion, c'est une chanson soul estivale pleine de bons sentiments, signée en 1969 par Tommy James and the Shondells. Un groupe qui n'était pas à Woodstock, je m'empresse de le souligner, et qui venait du Michigan, et qui défendait alors à contre-courant un style léger et sans prétention. Il avait quelque chose qui annonçait déjà, en pleine période de confusion, pas seulement musicale d'ailleurs, le retour, enfin le désir chez certains d'un retour à la simplicité, on pourrait dire le retour à une certaine innocence joyeuse, celle de Woodstock au fond. Il me reste à remercier Marie-Hélène Fauquet qui a réalisé cette émission avec brio, Kevin Pelot à la technique, Mathilde Verfaillie qui nous a apporté un soutien inestimable. Je vous dis à la semaine prochaine. Fin de l'épisode de ce soir. On se retrouve demain pour suivre la suite du feuilleton.